Chapitre 2, dans lequel on photographie physiquement et moralement le capitaine Servadac et son ordonnance Benzouf. Cette année-là et à cette date, on pouvait lire sur ses états de service au ministère de la guerre « Servadac Hector ». Né le 19 juillet 1800 et quelques, à Saint-Trédoly, canton et arrondissement de l'Espard, département de la Gironde. Fortune, 1200 francs de rente. Durée des services, 14 ans, 3 mois, 5 jours. Détail des services et des campagnes, école de Saint-Cyr, 2 ans. École d'application, 2 ans. Au 87e de ligne, 2 ans. Au 3e chasseur, 2 ans. Algérie, 7 ans. Campagne du Soudan, campagne du Japon. Position, capitaine d'état-major à Mostaganem. Décoration, chevalier de la Légion d'honneur le 13 mars 1800 et quelques. Hector Servadac avait 30 ans. Orphelin, sans famille, presque sans fortune, ambitieux de gloire sinon d'argent, quelque peu cerveau brûlé, plein de cet esprit naturel, toujours prêt à l'attaque comme à la riposte, cœur généreux, courage à toute épreuve, visiblement le protégé du dieu des batailles, auquel il n'épargnait pas les transes, pas hâbleur pour un enfant de l'entre-deux-mers qu'avait allaité pendant 20 mois une vigoureuse vigneronne du Médoc, véritable descendant de ces héros qui fleurirent aux époques de prouesses guerrières. Tel était au moral le capitaine Servadac, l'un de ces aimables garçons que la nature semble prédestiner aux choses extraordinaires et qui ont eu pour marraine à leur berceau la fée des aventures et la fée des bonnes chances. Au physique, Hector Servadac était un charmant officier. 5 pieds 6 pouces, élancé, gracieux, chevelure noire à frisons naturels, jolies mains, jolis pieds, moustache galamment troussée, yeux bleus avec un regard franc, en un mot fait pour plaire, et on peut le dire, plaisant sans trop avoir l'air de s'en douter. Il faut convenir que le capitaine Servadac, il l'avouait volontiers, n'était pas plus savant qu'il ne fallait. « Nous ne sabotons pas, nous autres, » disent les officiers d'artillerie, entendant par là qu'ils ne boudent jamais à la besogne. Hector Servadac, lui, sabotait volontiers, étant aussi naturellement flâneur que détestable poète. Mais avec sa facilité à tout apprendre, à tout assimiler, il avait pu sortir de l'école dans un bon rang et entrer dans l'état-major. Il dessinait bien, d'ailleurs, il montait admirablement à cheval, et l'indomptable sauteur du manège de Saint-Cyr, le successeur du fameux oncle Tom, avait trouvé en lui son maître. Ses états de service mentionnaient qu'il avait été plusieurs fois porté à l'ordre du jour, et ce n'était que justice. On citait de lui ce trait. Un jour, il conduisait dans la tranchée une compagnie de chasseurs à pied. À un certain endroit, la crête de l'épaulement, criblée d'obus, avait cédé et n'offrait plus une hauteur suffisante pour couvrir les soldats contre la mitraille qui sifflait de rue. Ceux-ci hésitèrent. Le capitaine Servadac monta alors sur l'épaulement, puis, se couchant en travers de la brèche, que son corps bouchait tout entière, « Passez maintenant, » dit-il. Et la compagnie passa au milieu d'une grêle de balles, dont pas une n'atteignit l'officier d'état-major. Depuis sa sortie de l'école d'application, à l'exception des deux campagnes qu'il fit, Soudan et Japon, Hector Servadac fut toujours détaché en Algérie. À cette époque, il remplissait les fonctions d'officier d'état-major à la subdivision de Mostaganem. Spécialement chargé de travaux topographiques sur cette portion de littoral comprise entre Tenaise et l'embouchure du Chélif, il habitait un gourbi qui l'abritait tant bien que mal. Mais il n'était pas homme à s'inquiéter de si peu. Il aimait à vivre en plein air avec toute la somme de liberté qu'un officier peut avoir. Tantôt arpentant à pied les sables de la grève, tantôt parcourant à cheval les crêtes dont il était chargé. Cette vie à demi indépendante lui allait. D'ailleurs, ses occupations ne l'absorbaient pas au point qu'il lui fût interdit de prendre le chemin de fer 2 ou 3 fois par semaine, et de figurer soit aux réceptions du général à Oran, soit aux fêtes du gouverneur à Alger. Ce fut même dans une de ces occasions que lui apparut Madame de L, à laquelle était destiné le fameux rondeau dont les 4 premiers vers venaient seulement d'éclore. C'était la veuve d'un colonel, jeune femme très belle, très réservée, un peu hautaine même, ne remarquant pas ou ne voulant pas remarquer les hommages dont elle était l'objet. Aussi le capitaine Servadac n'avait-il pas encore osé se déclarer. Ils se connaissaient des rivaux, et entre autres, on vient de le voir, le comte Timachev. C'était même cette rivalité qui allait mettre les 2 adversaires les armes à la main, et cela sans que la jeune veuve s'en doutât en aucune façon. D'ailleurs, on le sait, son nom respecté de tous n'avait pas été prononcé. Avec le capitaine Hector Servadac, demeurait au Gourbi son ordonnance Benzouf. Ce Benzouf était dévoué corps et âme à l'officier qu'il avait l'honneur de brosser. Entre les fonctions d'aide de camp du gouverneur général de l'Algérie et celles d'ordonnance du capitaine Servadac, Benzouf n'eut pas hésité même un instant. Mais s'il n'avait aucune ambition personnelle en ce qui le concernait, c'était autre chose à l'endroit de son officier, et chaque matin, il regardait si, pendant la nuit, il n'avait pas poussé quelques graines d'épinard sur l'épaule gauche de l'uniforme du capitaine d'état-major. Ce nom de Benzouf pourrait donner à croire que le brave soldat était indigène de l'Algérie, pas le moins du monde. Ce nom n'était qu'un surnom. Maintenant, pourquoi ce brosseur le nommait-on Zouf, puisqu'il s'appelait Laurent? Pourquoi Ben, puisqu'il était de Paris et même de Montmartre? C'est une de ces anomalies que les plus savants étymologistes eux-mêmes n'arriveraient pas à expliquer. Or, non seulement Benzouf était de Montmartre, mais il était originaire de la célèbre butte de ce nom, ayant vu le jour entre la tour Solferino et le moulin de la Galette. Or, lorsqu'on a eu le bonheur de naître dans ces conditions exceptionnelles, il est bien naturel qu'on éprouve pour sa butte natale une admiration sans réserve, et qu'on ne voit rien de plus magnifique au monde. Aussi, aux yeux du brosseur, Montmartre était-elle la seule montagne sérieuse qu'il y eût dans l'univers, et le quartier de ce nom le regardait-il comme un composé de toutes les merveilles du globe. Benzouf avait voyagé. À l'entendre, il n'avait jamais vu en n'importe quel pays que des Montmartre, plus grands peut-être, mais à coup sûr moins pittoresques. Montmartre, en effet, n'a-t-il pas une église qui vaut la cathédrale de Burgos, des carrières qui ne le cèdent point à celle de Pentélic, un bassin dont la Méditerranée serait jalouse, un moulin qui ne se contente pas de produire une vulgaire farine, mais des galettes renommées? Une tour Solferino qui se tient plus droite que la tour de Pise, un reste de ces forêts qui étaient parfaitement vierges avant l'invasion des Celtes, et enfin une montagne, une véritable montagne, à laquelle des envieux seuls osaient donner l'humiliante qualification de butte. On eût haché Benzouf en morceaux plutôt que de lui faire avouer que cette montagne ne mesurait pas 5 000 mètres de hauteur. Où rencontrait-on donc dans le monde entier tant de merveilles réunies sur un seul point? Nulle part, répondait Benzouf, à quiconque s'avisait de trouver son opinion légèrement exagérée. Innocente manie, après tout. Quoi qu'il en soit, Benzouf n'avait qu'une seule aspiration, revenir à Montmartre sur la butte et finir ses jours là où ils avaient commencé, avec son capitaine, cela va sans dire. Aussi Hector Servadac avait-il les oreilles sans cesse rebattues des beautés sans pareilles accumulées dans le 18e arrondissement de Paris, et commençait-il à le prendre en horreur. Cependant, Benzouf ne désespérait pas de convertir son capitaine, bien décidé d'ailleurs à ne le jamais quitter. Son temps était fini, il avait même fait 2 congés et allait abandonner le service à l'âge de 28 ans, Lui, simple chasseur à cheval de première classe au 8e régiment, quand il fut élevé à la position d'ordonnance du capitaine Servadac. Il fit campagne avec son officier, il se battit à ses côtés en plusieurs circonstances, et si courageusement même qu'il fut porté pour la croix, mais il la refusa afin de rester l'ordonnance de son capitaine. Si Hector Servadac sauva la vie à Benzouf au Japon, Benzouf lui rendit l'appareil pendant la campagne du Soudan. Ce sont là de ces choses qui ne s'oublient jamais. Bref, voilà pourquoi Benzouf mettait au service du capitaine d'état-major deux bras trempés de tout leur dur, comme on dit en langue métallurgique, une santé de fer, forgée sous tous les climats, une vigueur physique qui lui eût donné droit à s'appeler le rempart de Montmartre, et enfin, avec un cœur à tout oser, un dévouement à tout faire. Il faut ajouter que si Benzouf n'était pas poète comme son capitaine, il pouvait du moins passer pour une encyclopédie vivante, un nana inépuisable de toutes les calembredaines et coq-à-l'âne du troupier. Sur ce chapitre-là, il en eût remontré à quiconque, et son imperturbable mémoire lui fournissait des flonflons à la douzaine. Le capitaine Servadac savait ce que valait l'homme. Il l'appréciait. Il lui passait bien des manies que l'inaltérable bonne humeur de l'ordonnance rendait d'ailleurs supportable. Et à l'occasion, il savait lui dire de ces choses qui cimentent un serviteur à son maître. Une fois entre autres que Benzouf, ayant enfourché son dada, caracolait moralement dans le 18e arrondissement, « Benzouf, lui dit le capitaine, sais-tu bien après tout que si la butte Montmartre avait seulement 4705 mètres de plus, elle serait aussi haute que le Mont-Blanc ? » À cette observation, les yeux de Benzouf avaient lancé deux éclairs, et depuis ce jour, sa butte et son capitaine s'étaient indistinctement confondus dans son cœur.